France Culture.
En 2000, on vivait au Liban, Khalil et moi, et Khalil avait déjà rencontré à San Francisco Ethel et Simone lors d'une projection d'un de nos premiers films. Et un de nos amis photographes à Trulli voulait à tout prix que je rencontre Ethel. Et donc, on a organisé une rencontre à Beyrouth. C'était un moment très intense. Je me souviens très bien comment on était assis, le lieu où on était. Et tout de suite, j'ai senti que j'avais trouvé une famille. On rêvait beaucoup ensemble. Sur le mur, il y a 4 tableaux qui sont des tableaux que Ethel nous a offerts. Le plus petit est celui qu'elle a offert à mon fils à sa naissance. Elle était proche de mes enfants et mes enfants l'aimaient beaucoup. C'est un Ethel qui est assez traditionnel, c'est-à-dire avec des montagnes de plusieurs couleurs différentes et ces montagnes qui se projettent les unes dans les autres. Et il y a une sorte de soleil rouge, mais qui est pas du tout représentatif ni rond. C'est comme un rayon de soleil et il y a une dominante verte et rose. Et c'est un tout petit format que je regarde tous les jours à peu près. À côté, il y a une lithographie qu'elle a offerte à ma fille. Et on dirait qu'il y a deux ouvertures dans cette montagne et que c'est comme deux abris. Et en dessous, on a deux tableaux qui sont des tableaux que Ethel a peints spécialement pour Khalil et moi. Dans un des tableaux, on voit la mer, on voit... Bien sûr, il y a un oiseau, mais il y a aussi ce passeur. J'ai l'impression que, voilà, il m'emmène quelque part. Si ça va pas, il est là. Et puis, l'autre tableau qui est celui de Khalil, c'est un mélange, en fait, de l'univers d'Ethel. C'est-à-dire, il y a en même temps, comme un encrier, un bateau, un personnage. C'est vraiment ses obsessions qui sont posées dans ce tableau-là. Donc voilà, c'est le matin, je viens saluer mes mon soleil, mon abri, mon passeur. L'abri, le soleil, le passeur, d'ailleurs, parce qu'ils sont pas à moi.
Ethel Adnan, 1925-2021. Peindre l'exil, écrire la guerre. Un documentaire d'Anna Fulpin, réalisé par Somanina.
Ethel est née au Liban, mais de deux personnes qui étaient exilées, en fait. Exilées pas seulement de pays, mais de monde qui avait disparu. Sa mère était grecque, elle était née à Izmir, qui à l'époque était Smyrne pour les Grecs. Et mon grand-père aussi était né à Smyrne.
Johanna Hadjitoma, cinéaste.
Mon grand-père avait dû fuir cette ville en 1922 parce qu'il y avait eu un conflit très important entre les Grecs et les Turcs. Et il est arrivé à Beyrouth et il nous a toujours parlé de Smyrne, en fait. On a grandi avec cette ville dans notre imaginaire, un imaginaire dont on avait très peu d'images, mais énormément de récits. Et donc, Ethel aussi avait cette même relation à cette ville, puisque sa mère, grecque, était née à Izmir. Et son père...
Son père est un arabe de Damas, mais il a fait carrière dans l'armée ottomane. Génération d'Atatürk, hein, ils ont même été compagnons de classe.
Patrice Cotensin, éditeur et directeur de la galerie Le Long.
Donc, ce père officier de l'armée ottomane va se trouver désemparé à la fin de l'Empire ottoman en 1919 et il ne va pas accepter d'intégrer l'armée désormais turque. Ethel dira toujours que son père était un homme défait. Et ce couple va s'installer à Beyrouth.
« Ils sont partis un peu plus tard que mon grand-père, je pense une année plus tard. Donc, Ethel a grandi avec cette femme qui la prenait tous les jours, regardait la mer et Ethel demandait, c'est elle qui le raconte, est-ce que c'est là-bas Zmirne ? Et qu'il a inscrit en tant qu'enfant né à Zmirne, alors qu'elle était née au Liban. Dès la base, elle est structurée par le désir de sa mère d'être quelque part en partie ailleurs.
Ce couple n'aura qu'un seul enfant, Ethel Adnan, et ce couple parle entre eux, turc. Lui connaît aussi très bien l'arabe, et elle parle grec à sa fille. Ethel n'a jamais appris le turc, mais à force d'entendre du turc, elle a compris un certain nombre de choses, et elle est éduquée en français. Donc c'est déjà une atmosphère, on va dire, tri ou quadrilingue, qui s'installe dans sa tête.
L'école était française.
Ethel Adnan, en 2019, au micro de Laure Adler.
J'ai donc été à l'école religieuse des Bonnes Sœurs. Elles étaient de France, ce n'étaient pas des religieuses locales. Et l'éducation était très stricte. Donc, au point de vue éducation formelle, ce sont de très bonnes écoles. Mais elles étaient aussi, et le sont peut-être toujours un peu, très étroites. On me disait plusieurs fois, pauvre petite Ethel, tout est bien, mais son père est musulman. On nous disait que les musulmans n'allaient pas au paradis. Alors, j'ai appris à me poser des questions.
Beaucoup de mes amis grecs me disent qu'Ethel a parlé extrêmement bien grec, dans le sens où elle parlait un grec ancien. Elle parlait un grec très beau, très littéraire. La langue est un sujet dont on a beaucoup parlé. Pas forcément la langue grecque et turque seulement. On a aussi parlé de la langue arabe. En fait, le mandat français interdisait de parler l'arabe. Dans la cour de récréation, si vous parliez l'arabe, vous aviez un signal et vous étiez puni. Il y avait comme ça une hégémonie de la langue française. Et ayant étudié au moment du mandat français, elle n'a pas eu accès totalement à la langue arabe. Et je crois que le regret de la langue arabe était peut-être plus important que le regret du grec ou du turc.
Rappelons qu'elle est née en 1925, donc elle est allée à l'école primaire chez des religieuses, c'est là que sa mère l'avait placée. Elle a eu aussi une attitude très critique à l'égard du type d'enseignement qui était donné aux petites filles et aux jeunes filles dans ces établissements. Mais elle a eu une très bonne formation en langue française qui a culminé avec la fameuse École des Lettres qu'avait créée dans l'immédiate après-guerre Gabriel Bounour, un Français, qui était dans le monde de l'enseignement, mais déjà très tôt, il fréquentait beaucoup les revues et les écrivains dans les années 30. Il écrivait des chroniques de livres dans la NRF. Et il s'est trouvé à Beyrouth, dans ce circuit d'enseignement, on va dire, un petit peu semi-colonial de la France de l'époque. En 45, était-elle à 20 ans. L'école des lettres va naître en 46, je crois, 47, et ça va être un tout petit groupe. C'était une vingtaine qui étaient réunis dans une villa à Beyrouth. Souvent de gens, d'ailleurs, qui avaient aussi besoin de gagner leur vie à côté, comme étudiants. Ethel, par exemple, va enseigner dans une école. C'est très peu connu, ça, mais il fallait gagner de l'argent pour vivre et survivre à Beyrouth. Ses parents n'avaient aucune fortune. Sa mère ne travaillait pas. Et donc, Ethel, très tôt aussi, a été, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, celle qui apportait de l'argent au foyer, parce qu'elle travaillait comme secrétaire auprès des forces militaires franco-britanniques à Beyrouth. Donc, l'École des Lettres était une université complètement non conventionnelle. Et Bounour faisait des cours tout à fait non conventionnels. Ethel se souvient que, voilà, il partait sur Baudelaire, sur Nerval ou sur un autre grand poète, et il pouvait tenir son auditoire fasciné pendant 2 ou 3 heures.
Ça se passait dans un jardin.
Laure Adler, journaliste et écrivaine.
Il y avait le bruit du vent dans les arbres, il y avait les odeurs des arbres, il y avait les odeurs de la myrrhe, il y avait le sol qui pouvait sentir l'humus de la terre. Enfin, elle parlait de cela comme, pas seulement comme un rapport, entre guillemets, à un savoir désincarné, mais quelque chose qui était très, très physique, très sensible, et je pense très sensuel. La poésie s'interpénétrait avec la philosophie, qui elle-même s'interpénétrait avec l'histoire de l'art, avec ce qu'on ressentait soi-même par le corps, etc., etc.
Est-elle réussissant à avoir une bourse grâce à l'initiative de Bounour ? Elle était censée au début venir à Lyon, mais ça ne lui plaisait pas beaucoup. Elle s'est arrangée pour venir à Paris. Et elle va grosso modo de 50 à fin 54, avec une pause où elle va un moment revenir à Beyrouth, être à Paris. Elle ne va pas, elle le dit elle-même d'ailleurs, beaucoup, beaucoup étudier de façon académique dans les universités. Elle va surtout traîner partout, essayer de rencontrer du monde. Elle va aller frapper à la porte de Gide, qui va l'accueillir et qui va d'ailleurs mourir pas très longtemps après. Mais c'est aussi le moment où elle va déjà rencontrer Marguerite Yourcenar. Elle va suivre les cours de Souriot, elle va suivre des cours de Bachelard. Enfin voilà, elle s'ouvre au monde encore plus après le tremplin de l'école des lettres de Bounour à Beyrouth.
Ce climat philosophique dans lequel elle a baigné dès qu'elle est arrivée en France est un climat qui a contribué à forger son rapport au monde. Je pense que son armature philosophique, pour laquelle d'ailleurs elle a quitté le Liban, et tout ce climat de la philosophie morale et de la philosophie du temps, de cette période où on étudiait beaucoup le temps, a fortement, je pense, contribué à lui donner le dynamisme, pour reprendre un terme philosophique de Bergson, de l'élan.
Va avoir une recommandation de Souriot pour un professeur de Berkeley. Et la voilà qui, en janvier 55, prend un bateau. Il n'était pas question d'aller aux États-Unis en avion à cette époque-là. Prend un bateau et se rend aux États-Unis. Elle va d'ailleurs faire un arrêt de quelques jours à New York qui va aussi l'émerveiller, et elle va ensuite aller à Berkeley. Et on peut rappeler quand même cette rencontre étonnante que fait Ethel sur ce bateau, ce premier bateau qui l'emmène en Amérique. C'est qu'évidemment elle voyage en troisième classe, et à un moment, autour de la table commune où il y a de la cantine du bateau, elle entend une voix avec un accent grec. Et qui était là ? C'était l'oncle d'Agnès Varda. L'accent grec était toujours pour elle quelque chose d'important, parce que, elle disait toujours, le grec, c'est la voix de ma mère. Elle enseigne dans un collège, elle enseigne la langue et la littérature française, les humanités, on va dire. et elle n'enseigne pas qu'en français, donc aussi elle a très vite progressé en anglais, et elle va démarrer à l'initiative d'une collègue du petit collège où elle enseignait en Californie, une carrière de peintre, à l'initiative de Anne O'Hanlon, en 59 précisément. Et elle l'a toujours beaucoup dit, la Californie des années 60, c'était tout s'ouvrait de tous les côtés pour elle. Encore plus que dans le Paris de la première moitié des années 50. Et donc, elle a assez vite participé à des expositions de groupe de ci, de là, et elle a eu des premières expositions personnelles en Californie.
J'ai été professeur de philosophie de l'art. La personne en charge du département d'art m'a dit comment vous enseignez la philosophie de l'art et vous dites que vous n'êtes pas peintre. Et elle m'a dit, venez. Et elle m'a donné des crayons qu'on a ramassés par terre, des bouts de papier. C'était très sage. Elle m'a pas fait peur avec des toiles bien montées. Et puis elle m'a dit, au bout de quelques mois, elle m'a dit, vous savez, votre esprit est formé. Vous n'avez pas besoin de cours, vous n'avez qu'à continuer. Entre-temps, j'avais déménagé en Californie. Je connaissais l'anglais, mais c'était minime. J'ai trouvé de l'intérêt à cet effet immédiat. C'est une espèce de repos profond, la peinture, par rapport à l'écriture.
Elle avait une maîtrise de la couleur qui ne venait pas d'un enseignement académique. Elle avait une intuition du voisinage, du conflit et ou du choc provoquant un intérêt entre les couleurs qui est très stupéfiant. Et un jeu entre la figuration et l'abstraction. C'était encore la guerre entre la figuration et l'abstraction. Et elle naviguait en toute liberté au milieu de cela. Par exemple, son œuvre dessinée des années 60, qui est encore méconnue, il y a une extrême liberté entre des jeux graphiques et des figurations déjà de montagnes. Il y a pas mal de bateaux, des sortes même plutôt de caïques. Elle fait pas des transatlantiques, ni des voiliers de course autour du monde. Et puis aussi des dessins très cosmologiques, des étoiles qui tournent, qui girent dans l'espace.
Une personne lui avait demandé un texte sur Cézanne et ça l'avait amené à énormément réfléchir à la couleur rouge. Elle était habitée par ce rapport à la nature et à la couleur. Elle peignait souvent ce qu'elle voyait de ses fenêtres, donc les montagnes de Sausalito. À Erquy, elle a peint la mer et ce qu'elle voyait aussi de son balcon. Souvent, elle peignait ce qui était posé sur sa table. Elle avait ce rapport-là, à la nature et à la peinture.
Et notamment le mont Tamalpais, en Californie, près duquel elle a habité, qui est une ancienne montagne vénérée par les peuples autochtones de Californie. Être près de cette montagne, pouvoir regarder cette montagne, a joué un rôle très important pour elle, mais qui s'ancre aussi en partie dans le souvenir du mont Sanin, au Liban, qui est un peu aussi le mont Tamalpais du Liban.
Les montagnes et le soleil.
Sophia Karampali Farhat, poétesse.
Et c'est vrai que ces montagnes... Moi, qui ai grandi, en fait, dans les montagnes aussi, et ce soleil omniprésent, en fait, dans son œuvre, quelque part, ça a été toujours un rapprochement que j'ai pu faire entre revenir à la terre natale, revenir en montagne, Les formes des montagnes, ça a toujours été très féminin par leur courbe. C'est ça aussi qui me plaisait, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une forme de sensualité dans son œuvre peinte et ce soleil omniprésent, en fait, qui montre un peu la direction de l'espoir. Même s'il y avait beaucoup de douleur dans l'expression d'Ethel et la manière dont elle a placé la couleur dans ses œuvres, ça en a toujours fait quelque chose de puissant et de lumineux à mes yeux. J'aime beaucoup celui-là qui est un Leporello en fait, s'appelle Youssef Essayer à gauche jusqu'au Mont des Oliviers, qui en fait est un Leporello. Alors il fait un demi-mètre, donc quand on le déplie, et c'est en fait une écriture en arabe. Alors là, j'imagine que c'est un poème qui est donc écrit de droite à gauche sur fond de peinture ou couleur pâle, mais on reconnaît le trait de Ethel parce qu'il y a les formes géométriques et une forme de peinture abstraite finalement qui fait ça. J'aime beaucoup quand Ethel écrit en arabe. Peindre en arabe, écrire en arabe, pour elle c'est la même chose. Et c'est vrai que peindre en arabe, pour elle, c'est cette écriture-là.
Ce que Ethel appelait les Leporello, c'est des cahiers, à la base des cahiers japonais, je pense, qui sont des cahiers qui s'ouvrent en accordéon. Et en fait, elle a commencé à écrire sur ces Leporello des poèmes. Elle recopiait au départ des poèmes d'autres poètes arabes. Et donc, je crois qu'elle a privilégié dès le départ cette forme de calligraphie arabe qu'elle pouvait agrémenter de dessins. Et elle travaillait sur l'encre, avec de l'encre. C'est vraiment des œuvres d'art, les Leporello d'Ethel. Et moi, j'insiste sur la générosité d'Ethel, c'est-à-dire que non seulement elle recopiait ses poèmes, mais pendant très longtemps, elle les envoyait à ses poètes, que parfois elle ne connaissait pas. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est cette possibilité d'admirer et d'honorer l'autre. Elle s'inscrivait vraiment dans un paysage littéraire arabe. Je crois qu'elle admirait aussi cet usage de la langue arabe dont elle était privée. Et en l'écrivant comme une calligraphie, quelque part, comme des signes, même si elle la comprenait, bien sûr, mais elle honorait aussi cette langue qui était pour elle une langue magnifique. Mais je crois que le fait que ses poèmes et ses écrits soient traduits en arabe, qu'elle ait la considération de ses pairs, bien que tardive, a été un moment très joyeux et très heureux de sa vie.
Printemps que les fleurs possèdent. 1990. أعلم أن الزهور ترافق الجنائز وأنها تفرز السموم القاتلة وتلتهم حجارة الجدران المهجورة وأعلم أن ألق الزهور أقوى من وهج الشمس وأن خسوفها نذير بنهاية الزمن لكنني أحب الزهور لأنها خداعة لأن قاماتها الناحلة تعمر بالفرح شوارع مخيلتي ولولاها لكان قلبي قبرا بلا شاهدة. Les textes d'Ethel, même s'ils sont écrits en langue française et écrits en langue anglaise, finalement, c'est comme s'ils étaient écrits en arabe. La manière dont elle aborde le lien avec la nature, le lien avec les différents éléments, il y a quelque chose de très arabe dans tout ça. Même si le choix de l'arabe n'est pas visible pour nous, mais il est là.
Thank you.
Elle aimait la diversité des langues. Je crois que même le son des langues, y compris de langues qu'elle ne comprenait pas, l'intéressait musicalement. Elle a quand même assez vite compris qu'il n'y en avait que deux avec lesquelles elle pouvait écrire. Une dans laquelle elle écrivait à la perfection, qui était le français. Une autre qu'elle avait apprise de façon un peu irrégulière, mais dans laquelle elle avait, par sa capacité à vite absorber le milieu dans lequel elle se trouvait, dont elle avait fait une langue anglaise très personnelle. Ce qui va lui permettre d'écrire en anglais, c'est la guerre du Vietnam. Et c'est un déclic qui va la faire entrer dans le monde de l'expression anglaise.
Le testament de l'ennemi, 1966.
I send my eyes to your president so they can look him in the face. They only knew the darkness of tunnels. I send my teeth to your generals. They bit more riffle than bread, for hunger was my companion. I send my tongue to your cardinals. It will tell them what Jesus said about this word. My body, I leave to the Mekong River.
L'anglais d'Ethel est un anglais singulier. On entend sa voix dedans. C'est un anglais non-oxfordien et même non totalement berkeleyien. Hein, c'est l'anglais d'Ethel.
Pourquoi elle décide de revenir au Liban après avoir passé tant d'années en Californie ? Est-ce qu'elle y fait ? Alors, on a déjà évoqué le journalisme.
Elle revient au Liban pour plusieurs raisons. Elle se sent en Californie de plus en plus arabe. Les guerres du Moyen-Orient et le soutien très fort apporté par les États-Unis à l'État d'Israël la mettent mal à l'aise. Elle sent au fond qu'elle arrive peut-être au bout de quelque chose dans son enrichissement en Californie sous de multiples facettes. Hein. On pourrait aussi évoquer son intérêt pour la musique, pour le jazz, les festivals, le théâtre. C'était aussi une passionnée de cinéma depuis les années 30 à Beyrouth. Hein. Je pense qu'elle sent qu'elle arrive peut-être au bout d'une phase. Elle a un intérêt à revenir au Liban parce que là-bas, des galeries qui existent au début des années 70, des revues, y compris des revues en arabe, les gens qui animent ces lieux lui disent « Ethel, reviens
Elle retourne au Liban, elle dit justement qu'elle était aux États-Unis et qu'elle sentait qu'elle n'était pas là où les choses se passaient.
Sabil Goussoub, écrivain.
Qu'elle avait besoin de venir à Beyrouth pour ressentir en fait les choses qui se déroulaient, parce que Beyrouth aussi dans les années 70, c'est un moment très politisé, parce que les combattants palestiniens arrivent au Liban, et il y a plein de choses qui se passent, qui se disent, c'est très libre, c'est un moment où on peut se dire un peu tout ce qu'on veut politiquement par rapport à la région et tout ce qu'on pense. Culturellement, il y a beaucoup de pièces de théâtre, de choses qui se font et qui se produisent, et je crois qu'Ethel revient parce que, c'est marrant, parce que même 40 ans plus tard, je pourrais dire, c'est pour les mêmes raisons qu'on retourne à Beyrouth, c'est parce qu'on a l'impression que c'est là-bas que ça se passe aussi.
Or, elle va découvrir que, en arrivant, des gens qu'elle avait pensé être ses amis, qui auraient pu peut-être lui faciliter d'enseigner dans une université à Beyrouth, ne voient pas son arrivée en tant que femme, en tant qu'américaine, entre guillemets, en tant que quelqu'un aussi ayant des positions politiques très tranchées. Donc elle va sentir qu'on ne l'accueille pas dans le monde universitaire à bras ouverts, même loin de là. Et comme il faut aussi qu'elle gagne sa vie, elle va très vite devenir journaliste et assurer une chronique dans un journal qui aura été éphémère, mais qui est très libre à ce moment-là, qui s'appelle As-Safa à Beyrouth. Et elle va animer là, avec une étonnante liberté et un grand culot, des pages culturelles qui vont attirer l'attention non seulement à Beyrouth et dans le Liban, mais un peu dans tout le Moyen-Orient. Et là, elle va faire des rencontres aussi très importantes. D'abord, la rencontre décisive pour sa vie ultérieure avec Simone Fatal, hein, qui est une jeune peintre syro-libanaise vivant à Beyrouth à ce moment-là. Elles vont vivre ensemble. Simone Fatal va ouvrir aussi son atelier parce que Ethel arrive là-bas. Elle a encore envie, bien sûr, de peindre et elle va peindre lors de son retour au Liban. Et elles vont ensemble rencontrer beaucoup de gens. Pour Simone aussi, c'est un grand éblouissement que de découvrir Ethel et toute sa richesse. Elle va aussi recruter pour collaborer avec elle au journal des jeunes femmes libanaises comme Dominique Eddé et comme Jocelyne Saab, la cinéaste, qui sont aussi deux grandes figures de la culture libanaise à l'époque, alors qui ont 20 ou 25 ans de moins qu'elle, et pour lesquelles elle va être un peu une espèce de, on pourrait dire, de bounour féminin pour une nouvelle génération libanaise à ce moment-là. Mais tout cela ne va pas s'épanouir très longtemps, puisque, on le sait, déjà printemps 75, le fameux mitraillage d'un bus de Palestiniens, puis à l'automne 75, la guerre civile démarre. Il y aura eu quoi, 2-3 ans, un petit peu comme ça, de liberté. Et la tension va très vite être très forte. Et Ethel aussi ne cache pas ses positions politiques dans cette guerre. Et elle va se trouver progressivement menacée. Et des amis vont lui dire... il vaut mieux que tu partes. Et de là, elle va pas repartir en Californie, elle va partir à Paris, et c'est là qu'elle va écrire le roman Sitte-Marie-Rose.
Sitte-Marie-Rose, 1976. Tout ce qui bouche l'horizon les encombre. Hélas, même les arbres. Ils les abattent pour voir plus loin, c'est-à-dire pour regarder le rien. Ils utilisent leur corps comme s'il était une arme faite de fer. Ils aiment le bruit. Ils aiment la fureur. Impatients, ils ne se perdent pas sur les chemins de la pensée, de la distraction qui dure. La douleur aussi les encombre. Celle des autres, bien sûr, qui ne les touche jamais. La pitié... chez eux, quand elle existe, est tribale. C'est pourquoi je doute que Marie-Rose sorte vivante de cette confrontation.
Ce cette Marie-Rose, donc c'était une femme chrétienne qui vivait à Beyrouth-Est, mais qui travaillait pour une clinique ou un hôpital. Et donc, elle traversait la frontière, donc, de ce qu'on appelait, si je vulgarise, ça serait au bout d'un moment des chrétiens et des musulmans, mais donc, ça a été des forces palestino-progressistes alliées à certains musulmans, au quartier chrétien, lié aux phalanges chrétiennes. Et donc, cette femme-là traversait cette frontière à chaque fois, et ça se faisait pas pour les gens de sa communauté. Et donc, elle finit par être torturée et tuée. Et elle entend l'histoire de cette femme, décide d'écrire ce roman. Et elle l'écrit d'une traite. Et je crois que ce roman raconte aussi un peu aussi la position d'Ethel. Quelqu'un qui venait d'un milieu plutôt chrétien, quand même, francophone, mais qui normalement, naturellement, aurait dû être des côtés des phalanges chrétiennes libanaises et contre les Palestiniens. Mais comme Ethel, cette femme-là était sensible à l'injustice qui a été faite aux Palestiniens, malgré aussi les travers des combattants palestiniens qui sont venus au Liban et sûrement ont bouleversé quelque chose de l'État libanais. Mais voilà, je voulais raconter les nuances qu'on peut avoir. Et je crois qu'à travers l'histoire de cette femme, c'était l'histoire déjà d'une femme libre, malgré tout, malgré la violence, malgré les armes, malgré les enfermements communautaires et politiques. C'est un des rares romans déjà qui est écrit pendant la guerre du Liban et qui raconte la guerre du Liban. Puis c'est drôle que tout d'un coup, avec cette histoire-là, elle ressente le besoin d'écrire un roman. Comme quoi, il y avait peut-être besoin de vraiment de raconter l'histoire et de mettre des mots qu'elle mettait pas avant sur les récits. Elle restait quand même toujours sur des phrases quand même assez abstraites, assez poétiques, qui avaient peut-être même 6, 7, 8 sens différents. Alors que là, tout d'un coup, c'est quand même un roman qui se lit d'une traite, qui se comprend très bien avec des personnages qu'on peut suivre très facilement. C'est un de ses rares romans. Et elle dit que c'est un cri du cœur, en fait, pour elle et qu'elle avait besoin de le raconter. Elle disait « La littérature n'a jamais été une profession pour moi. Mon écriture était comme ma respiration. C'est une question de sensation. » Et c'est ce qui est très fort dans ses écrits, c'est qu'on est tout de suite pris dans quelque chose de très sensuel, enfin de très très charnel. T'as l'impression qu'on sent la mer, qu'on sent ces éléments qu'elle aime et qu'elle a peints, mais quand elle les écrit, t'as l'impression qu'on les ressent de la même façon. Ils ont republié une énième édition de l'Express Beyrouth Enfer, qui est un poème assez connu, écrit donc en 70, avec le drame des Palestiniens en Jordanie. Et ils ont mis deux autres poèmes dedans. Il y en a un qui s'appelle « Beyrouth 82 ». Les arbres poussent dans toutes les directions comme les Palestiniens, déracinés et à la différence des papillons, sans ailes, liés à la terre, lourds d'amour, pour leurs frontières et leurs misères. Aucun peuple ne peut vivre éternellement derrière des grilles ou sous la pluie. Ce poème, tu peux le lire aujourd'hui sur les gens à Gaza et même en Cisjordanie, il est parfait, il est juste. Il y a une phrase très belle. Le soleil est si fort au Liban que les caméras sont invisibles. Sur la danse et Beyrouth qui danse malgré les bombes, Beyrouth dansait dans une averse de bombes au phosphore. L'orgueil de la cité est un chant arabe. Pareil, cette phrase, on aurait pu l'écrire en 2025 ou 2026. Elle raconte toujours de manière aussi juste Beyrouth et la situation de la région et des gens de la région. C'est dingue combien 30 ans avant, 40 ans avant, 50 ans avant la situation actuelle dans la région entre l'Iran, Israël, Israël, Palestine, Israël, le Liban, comment elle avait déjà tout vu, tout raconté, tout dit. Quoi. Ça me surprend à chaque fois que je la relis. T'as l'impression qu'il n'y a presque plus de temporalité quand elle écrit, qu'elle a réussi à capter l'humeur du monde de cette région dans les années 70 et qui tient jusqu'à aujourd'hui.
Le retour en Californie suite, on va dire, à la brève période libanaise et au drame de la guerre civile au Liban, l'amène à reconsidérer beaucoup de choses. Elle se serait peut-être définitivement établie dans un Liban pacifique. Donc, son retour en Californie et l'accumulation de la succession de catastrophes au Moyen-Orient qui la troublait très très profondément l'amène à réfléchir. Par exemple, dans le texte Voyage des exils, elle explique qu'au début, elle n'était pas du tout une exilée. Enfin, elle était partie ailleurs par curiosité. Comme on l'a déjà dit, la dimension de son arabité et de sa participation à une communauté d'ailleurs féminine de personnes du Moyen-Orient, elle va vraiment la vivre et la développer en Californie. Et donc elle va être, à chaque événement dramatique concernant les Palestiniens et la situation des Palestiniens, profondément bouleversée, et ça va se retrouver de façon régulière dans ses textes. Pour elle, la situation du peuple palestinien était une espèce de paradigme, tout comme d'ailleurs elle sera très sensible à ce qui se passait dans des pays d'Amérique centrale. Hein. Par exemple, la guerre civile au Nicaragua l'avait aussi profondément touchée, et elle avait fait des rapprochements dans un poème entre le Nicaragua et le Liban.
Le fait d'être loin de l'arabe, le fait d'être loin de la langue qui se joue dans le pays, pour le coup, on va parler du Liban, mais et les pays limitrophes, où c'est cette langue-là qui fait la politique, c'est cette langue-là qui fait les guerres, c'est cette langue-là que les politiciens emploient, que les éditorialistes emploient majoritairement, quelle que soit son époque, quelle que soit la guerre dont elle parle, quel que soit le sujet qu'elle traite, elle est au-delà. À la fin du texte écrit dans une langue étrangère, elle dit « J'ai toujours été partie prenante du « ici et maintenant ». Je n'ai pas consacré mon temps libre et chaque jour à tenter d'apprendre l'arabe en tant que vraie langue. Quand le soleil est fort et la mer bleue, je ne peux pas fermer mes fenêtres et m'enfermer pour étudier quoi que ce soit. Je suis une personne de l'éternel présent. Alors je reste dehors et l'arabe est resté pour moi un paradis interdit. Je suis à la fois une étrangère et une native de la même terre, de la même langue qui aurait dû, entre guillemets, être maternelle. Ce siècle nous a appris bien trop souvent à rester seul, à couper tous les liens, à ne jamais regarder en arrière, à partir conquérir la lune, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais. C'est quelqu'un de la vie, c'est quelqu'un qui a toujours écrit sur la vie, c'est quelqu'un, c'est une poète de la vie, c'est une peintre de la vie. Et quand on parle des éléments mer, soleil, fleurs, montagne, nuit, enfin vraiment des éléments très concrets de la vie, d'aimer la vie, quand elle dit, voilà, quand il fait beau et le ciel est bleu, j'ai envie de sortir et j'ai pas envie d'apprendre l'arabe, j'ai l'impression que il y avait un ressenti quand elle disait qu'elle ne le parlait pas, et en même temps, est-ce que c'est pas ça qui lui a donné toute cette liberté pour écrire tout ce qu'elle a écrit et peint tout ce qu'elle a peint? Est-ce que finalement, si elle avait parlé arabe, est-ce qu'elle ne serait pas politisée autrement au Liban?
C'est une série de voyages, de déplacements, parfois au début surtout motivés par mes propres décisions. Et le dernier grand déplacement est dû à la guerre à Beyrouth. Je me suis surprise à écrire un jour « Ma vie est un camion éventré ». Et puis j'ai dit « C'est assez terrible, parce que je ne vis pas ma vie comme une chose terrible. Je ne suis pas un être particulièrement malheureux. Au contraire. »
Je partage avec elle le fait de ne pas être forcément nostalgique. Mais c'est sûr que elle comprend que cette tristesse, la tristesse de ses parents, chacun d'ailleurs deux tristesses différentes, mais qui ont cohabité sous un même toit, l'ont constituée. Ces montagnes incroyables qui sont à Izmir et les montagnes qu'Etel a peint toute sa vie, ces montagnes de Sausalito qui ne sont pas du tout à Izmir, mais qui nous évoquent ça, parce que parfois il y a quelque chose qui nous travaille et qui n'est pas forcément totalement conscient. Mais Etel parle beaucoup du présent, le présent l'intéresse. Et elle parlait du présent éternel.
Il fallait être dans cette bulle du présent pour pouvoir peindre ce qu'elle avait à peindre. Et ce qu'elle avait à peindre, c'était pas quelque chose qui était dans sa tête depuis des jours et des jours, depuis des nuits ou des nuits, c'était pas dans ses rêves, c'était pas dans ses projets. Elle le disait, elle pouvait parler en même temps qu'elle peignait. C'était ce qui lui passait par la tête, là, dans la seconde qui s'écoulait. C'est quelqu'un qui s'est révélé peintre assez tardivement dans sa vie, donc qui croyait à la possibilité d'avoir des métamorphoses de sa propre personnalité. Quand vous imaginez que cette femme qui est maintenant exposée dans le monde entier, dont la cote coûte des prix absolument exceptionnels, n'avait pas d'atelier. C'était une petite chambre de son appartement, en tout cas à Paris, avec une table, une petite table d'ailleurs. Et puis pour travailler, elle avait besoin de feuilles de papier ou de châssis. Et puis voilà quoi. Il fallait que ça jaillisse et elle suivait son propre jaillissement. Et puis, quand elle composait un tableau, qu'elle composait un visage, ou extrêmement vite, parce que elle disait c'est comme ça, ça part de mon corps. Elle était entourée de l'amour de Simone. Elle se comprenait en se regardant. Donc ça, je pense que c'était quelque chose d'absolument fondamental pour Ethel, pour continuer.
Pour moi, le couple formé par Ethel et Simone passait par ce qu'on appellerait une complicité, une forme d'amour finalement qui passe à la fois par la vie quotidienne, mais aussi par l'art et qui dure autant de temps. Finalement, toutes les deux, elles ont vécu un amour vraiment tout en naturel. C'est-à-dire qu'elles ont juste considéré que c'était là, elles l'ont vécu. C'est vrai, un moment où on s'y attendait pas du tout à voir un couple de femmes aussi comme ça dans le monde arabe. Et peut-être aussi que la présence en France et aux États-Unis a sûrement joué. Mais c'était très beau pour moi aussi d'assister à cette complicité, à cet amour aussi entre ces deux femmes qui nourrissaient l'une l'autre constamment jusqu'au dernier souffle en fait d'Ethel, des œuvres d'art qui s'enrichissaient mutuellement, des travaux en commun. Voilà, il y avait quelque chose de très rebelle dans leur manière d'être, mais à la fois de très simple et de très naturel, sans forcément s'opposer aux autres, juste vivre leur amour. Et pour moi, ça, c'est une grande inspiration.
Vous avez rencontré Ethel Adnan par ses textes ou par ses peintures ?
Ni texte, ni peinture. C'est parce que je l'ai rencontrée elle d'abord. Et que j'ai été frappée par sa personnalité. C'était au cours d'une soirée assez mondaine, aux rencontres d'Arles, dans un endroit où il y avait énormément de monde, des rumeurs, des bruits de paroles un peu vaines, comme on s'échange dans ce genre d'endroit. Et près d'une cheminée, il y avait une femme assez énigmatique qui regardait comme ça cette espèce de concert de paroles et qui souriait avec un air méditatif. Elle était peut-être en train d'imaginer des couleurs, des lumières, des poèmes, etc.
Et vous, vous vous êtes rencontrés quand et comment avec Ethel Adnan ?
Alors, la rencontre, disons, professionnelle et qui va démarrer une période intense de travail, c'est 2014. Évidemment, nous avions remarqué, elle nous l'avait signalé, qu'elle avait été invitée, à sa grande surprise d'ailleurs, à réaliser une grande salle à la Documenta de 2012 par Hans-Ulrich Obrist, événement qui va déclencher un intérêt international vif et intense à l'égard de son œuvre picturale. Non pas qu'elle n'exposait pas, non pas qu'elle n'y avait pas déjà des intérêts de ci, de là, mais l'intérêt restait relativement limité et étroit, et la Documenta a fait exploser la situation. Et donc, pour elle, c'était quelque chose de très étonnant, puisque elle approchait, on va dire, les 90 ans, et ça l'amusait beaucoup.
La vraie rencontre, elle s'est faite à Paris, chez elle, rue Madame. À l'époque, je vivais au Liban et je travaillais pour différents médias. Et j'avais 21, 22 ans. Et donc, j'allais voir Etel Adnan et c'était un peu ma reine. Et donc, j'avais préparé des questions, j'avais tout relu. J'étais vraiment en grand stress et je suis arrivé. Et finalement, la discussion était incroyable. Ça a duré 3 heures. Il n'y a pas vraiment eu d'interview. J'ai eu cette impression d'être... presque d'être allé voir ma grand-mère. Et je crois qu'elle est devenue un peu ça pour beaucoup de jeunes Libanais et pas que. Je pense qu'on allait la voir comme on allait voir notre grand-mère au Liban, quoi. Et elle me demandait, bon, ben, comment ça va à Beyrouth? Et là encore, maintenant, au moment où on fait cet entretien, il y a cette guerre Iran-Israël qui est en train d'exploser dans tous les sens. Et j'aurais aimé l'entendre dessus. J'aurais aimé savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte. Et donc, le 7 octobre, qu'est-ce que t'en penses? Et donc, la réaction à Gaza, qu'est-ce que t'en penses? Et la guerre du Liban, qu'est-ce que t'en penses? Et comment elle aurait, je pense que, ça nous fait peut-être beaucoup réfléchir sur comment raconter ces choses-là tout en continuant à écrire des romans, des récits, des poèmes, tout en continuant à peindre.
Quand elle décède en novembre 2021, ça coïncide aussi avec un moment où vous vous mettez beaucoup à écrire.
Tout à fait. En fait, juste après son décès, donc on venait de vivre un an plus tôt l'explosion du port de Beyrouth. Là, on était en pleine crise. Il y avait quelque chose qui me donnait, moi, une grande pulsion d'écriture. Et c'est vrai que le décès d'Etel Adnan est venu marquer une forme d'élan. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'ouvrir mon livre avec un de ses poèmes qui font qu'elle était présente. Donc, Zaatar, qui a été écrit en février 2022, donc juste quelques mois après son décès, finalement cristallise aussi ce besoin de la faire vivre aussi via ce texte.
Quand on s'est rencontrés, on a eu envie de partir ensemble à Smyrne. Je dis Smyrne, mais c'est Izmir en fait. Mais c'est l'habitude, on l'appelait comme ça en famille. Donc on avait cette idée qu'on irait à Izmir et que toutes les deux, on essaierait de retrouver un peu les coins où nos parents avaient vécu. Alors bien sûr, pendant des années, on a parlé. Mais on n'est pas parti. Et au moment où tout d'un coup, il nous a semblé extrêmement urgent à tous de faire ce voyage, à tous et toutes, il était un peu trop tard pour Etel pour voyager. Etel n'arrivait pas à voyager à la période où nous, on avait envie de faire ce film. Et c'était compliqué pour elle de prendre l'avion. Alors au départ, on a commencé à avoir des rêves qu'on partirait en bateau, qu'on prendrait le train jusqu'à Venise et de Venise un bateau jusqu'à Izmir. Et puis ensuite... Etel nous a dit qu'elle serait trop fatiguée pour faire ce voyage. Et on s'est mis d'accord que Khalil et moi, on irait à Izmir pour faire des images.
Vous vouliez nous lire un extrait
Oui, je voulais parler de ce petit livre d'Etel que j'aime beaucoup, dont le titre français, mais elle l'a écrit en anglais à la base, c'est « Le prix que nous ne voulons pas payer pour l'amour ». Amoureux, on devient un oiseau. L'on tend le cou et entend un chant que l'on n'attendait pas. On est sans voix. Mais ils sont bien plus nombreux ceux qui ne sont pas prêts à risquer leur vie pour un tel moment. Ils ne risqueraient même pas moins que cela. Ils ne bougeraient pas. Ils sont effrayés. Ils préfèrent rester dans leur médiocrité. On peut les comprendre. L'amour sous toutes ses formes est la chose la plus importante à laquelle nous soyons jamais confrontés, mais la plus dangereuse aussi, la plus imprévisible, la plus chargée de folie. Cependant, c'est le seul salut que je connaisse. Quand elle dit que quand elle partira, l'univers va perdre une amie, c'est réel. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une image. Son intérêt pour la nature, les paysages et le monde, c'est une vraie relation. Les soleils, les montagnes, les couleurs, ou les oliviers qu'elle a peints à la fin de sa vie, elle a un rapport extrêmement profond à tout ça.
Vous n'avez jamais rencontré Etel Adnan, mais si, imaginons, vous aviez pu la rencontrer, vous savez ce que vous lui auriez dit, enfin, ou de quoi vous auriez aimé parler avec elle?
Je pense que j'aurais adoré faire une balade botanique avec elle. Ça aurait été ça, et peut-être après la balade botanique et ramasser des fleurs ensemble, j'aurais aimé qu'on me fasse sur un long leporello plein de cyanotypes. Le procédé qui utilise le soleil pour photographier. Donc on aurait placé les feuilles et les fleurs. Et peut-être qu'on aurait écrit en français, en anglais, en arabe et en grec dessus.
C'était Etel Adnan, peindre l'exil, écrire la guerre. Avec Johanna Hadji Thomas, Patrice Coutançon, Laure Adler, Sophia Karampali Farhat et Sabil Goussoub. Merci à Sonia Mecher Atassi. Documentation Véronique Le Falleur, Archivina Marie-Sophie Guillet de la Brosse, prise de son Alexandre Abergel, Marie Le Peintre et Grégory Wallon. Mixage, Éric Villenfant. Coordination, Emmanuel Laurentin et Sandrine Chaperon. Un grand merci à Rafik Zénine et Sylvie Andreux. Etel Adnan, peindre l'exil, écrire la guerre. Un documentaire d'Anna Fulpin, réalisé par Soma Nina.